France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Philippe Cohen-Solal. Vers 19h45, le son du jour, Jam Code de Jesus and Mary Chain. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui est toujours au Japon, à la villa Kujoyama. L'occasion de découvrir ce soir l'art du tissage de la soie à Kyoto et du tressage de bambou à Osaka. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Guillaume Ficheux à la prise de son. Bonsoir Philippe Cohen-Solal.
Bonsoir Arnaud Laporte.
Vous venez de sortir un nouvel album, 75-010, chez Yabasta Records.
Ouais.
Un album dont on va parler bien sûr, mais on va profiter de votre venue ce soir pour revenir sur des moments importants de votre parcours, pour essayer de connaître aussi vos méthodes de travail concernant la composition. Alors, vous avez eu plusieurs vies dans la musique avant d'en faire vous-même. On va revenir sur quelques étapes, mais d'abord des parents mélomanes. À la maison, on écoutait beaucoup de jazz, de pop, de rock. Au lycée, une professeure de musique qui vous emmène voir La Flûte Enchantée dans la version cinéma de d'Ingmar Bergman. Grand choc donc de cette découverte du classique, suivi peu après par un autre grand choc, parce que vous avez, pas le cacher plus longtemps, 16 ans à peu près, quand le punk arrive, 77, ouais. Vous aviez déjà un groupe avec des copains avec qui vous jouiez des reprises des Stones et des Beatles. Mais bon, l'arrivée du punk, c'est encore autre chose. Mais on voit donc que très tôt, avant la fin de votre adolescence, vous avez baigné et aimé des musiques très différentes. Est-ce que vous pensez que vous avez des oreilles, une curiosité particulière, quelque chose d'inné dans cette prédisposition à aimer tant de musiques différentes ?
J'ai une curiosité insatiable, je dirais. J'arrive pas à me. J'ai besoin d'écouter tout le temps des nouvelles musiques, des nouveaux sons. Je suis un peu boulimique au niveau de même quand j'étais adolescent, tout l'argent que mes parents me donnaient pour acheter mon goûter, je l'utilisais pour acheter des disques. Et j'ai fait ça toute ma vie quasiment. Maintenant j'ai 17 000 disques à la maison, donc du coup ça prend de l'espace, mais en tout cas c'est mon environnement et j'ai besoin de ça en fait.
Alors pour résumer les années suivantes, dire qu'à 20 ans vous devenez technicien et programmateur musical à la radio libre, Radio J, c'était le moment où la bande FM était libérée par l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Il y aura ensuite une brève aventure de Radio Capital, du regretté journal Le Matin de Paris, puis avec des camarades de Radio Capital, la création de 95.2.fm, c'est la radio satellite d'Europe 1. Alors c'est là que vous commencez, en plus, à faire de l'antenne, Philippe Cohen-Solal, pour une quotidienne musicale. Vous avez été des artistes, puis vous passez 2 années dans la jeune Skyrock, au total un septennat de radio avant de changer de métier pour devenir tout d'abord directeur artistique chez Polydor. Et où, là, un endroit où vous passez beaucoup de temps, le plus possible pour vous, en studio, avec les musiciens. Là, le virus s'est inoculé. Qu'est-ce que vous découvrez dans ce travail de studio qui vous plaît tant ?
Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est une sorte d'intimité avec la musique, où on rentre en fait dans les entrailles de la musique. Et à l'époque et avant de faire ce métier, j'avais du mal à analyser toutes les strates sonores qu'il y avait dans un morceau. Quand j'écoutais un morceau, j'écoutais une chanson, un morceau dans sa globalité. Et en fait, en travaillant en studio, j'ai compris en fait tous les ingrédients et toutes les strates qu'il y avait, toutes les dimensions qu'il y a dans une chanson ou dans une musique. Et ça m'a en fait passionné. Et ça m'a passionné surtout de comprendre comment on faisait de la musique. Et c'est ça que j'ai aimé. Et puis j'adore le studio. En fait, c'est marrant parce que depuis longtemps, je passe ma vie en studio et il n'y a pas de fenêtre comme ça. Et en fait, ça ne me gêne pas. J'ai l'impression que je vois à travers les murs par ce que je vois, enfin ce que je ressens musicalement quand je suis dans un studio. En fait.
Nouvelle activité, nouveau métier, Philippe Cohen-Solel, quand vous entrez chez Virgin pour monter un département musique à l'image, un métier qui n'existait pas encore en France alors que ouais. ça faisait longtemps qu'il existait aux États-Unis, notamment à Hollywood, hein, mais c'était nouveau dans ouais. notre pays. Alors du coup, c'est quand même un boulevard pour vous, ce qui est formidable, et vous allez travailler avec de très bons réalisateurs, producteurs. Vous partez soit de lecture d'un scénario, soit à partir déjà d'un pré-montage. Il y aura notamment Arnaud Desplechin, Nikita Mikhalkov, Lars von Trier, Zhang Yimou, Bertrand Tavernier, on y va y revenir, et Christophe Kieslowski. Et à ce moment-là, vous commencez à faire aussi votre propre musique, parce que c'est aussi le début de la musique électro, de la house, et que la house, hein, on peut travailler à la maison. Et c'est à Bertrand Tavernier, ai-je lu, que vous avez osé faire écouter un de vos morceaux, et il va l'inclure dans son film Lapin en 95. 95, c'est aussi l'année de la création de notre label, il y a Basta Records. J'ai l'impression qu'il se cristallise là, cette année-là, beaucoup de choses. Quels souvenirs vous gardez de cette époque-là, vous ?
Avant tout, une effervescence personnelle. C'est-à-dire que je passais beaucoup de temps à ce moment-là à travailler et à danser. En fait, c'est-à-dire que par exemple, je faisais aussi des musiques pour la publicité, par exemple. Donc, on avait les moyens d'aller à Londres, j'allais travailler à Bay Road Studio, dans des sublimes studios comme ça. Et puis, dès que je terminais ma séance de studio pour tel travail de commande, j'allais dans les clubs à Londres et je passais la nuit tout seul. Hein. J'avais pas de copains, j'avais des copains à Londres, mais bizarrement, j'allais tout seul. Je faisais la queue avec tout le monde et puis j'allais danser jusqu'au petit matin. Et après, je revenais et bon, j'avais la forme peut-être pour arriver à faire ça jour et nuit, on va dire. Et j'adorais ça, et parce que ça me nourrissait, en fait. Ça me nourrissait, les sensations que j'avais en dansant. Ce que j'aimais dans le fait de danser pendant des heures et des heures, c'est que ça me permettait de réfléchir. Je dansais dans un où j'étais vraiment porté, mon corps était porté par la musique. Et dans les clubs, c'était incroyable à l'époque. En plus, dans les années 90 à Londres, c'était absolument incroyable parce que la musique qui passait. Et en même temps, je réfléchissais. J'avais plein de nouvelles idées et c'était donc une effervescence. De travail, évidemment, je travaillais beaucoup, mais aussi je réfléchissais beaucoup à mes projets, ce que j'avais envie de faire, et il y avait vraiment une sorte de terrain vague, de terrain vierge dans lequel on pouvait faire plein de choses, hein, et un peu tout ce qu'on voulait, en fait.
Alors en 97, va sortir le film Club to Death de Yolande Zobermann, pour lequel vous concevez la bande originale. Alors moi, c'est un disque que je chéris, qui est chez moi depuis la sortie du film, et que j'écoute très régulièrement parce qu'on a les meilleurs sons techno et house de l'époque, et c'est vraiment absolument indémodable. Mais après, vous allez signer vous-même, Philippe Cohen-Solel, des bandes originales de films. J'aimerais pas crever un dimanche, de Didier Le Pêcheur, Je déteste les enfants des autres, d'Anne Fascio, Le fil d'Ariane, de Marion Lenne, ou encore Tu veux ou tu veux pas, de Tony Marshall. Là, c'est en collaboration avec Chassol, bon camarade. Avant d'aborder ce pan de votre travail, on va écouter deux confrères parler de la composition pour le cinéma. On va d'abord écouter Ennio Morricone au micro de Maurice Fleuret en 80, et ensuite on va entendre Jean-Benoît Dinkel, moitié du groupe R, qui était mon invité en juin 2022.
La migliore musica del cinema è sempre, deve essere giusta nella sua applicazione all'opera cinematografica. Per la prima cosa.
La meilleure musique de film, il faut qu'elle s'accorde bien avec l'œuvre cinématographique. C'est le premier principe, c'est certain.
Ma per essere giusta in questa sua applicazione. Anzi, non può
Mais ne peut s'appliquer cette musique de film ne peut s'appliquer de façon correcte à l'œuvre cinématographique que dans la mesure où elle a une existence propre et indépendante de l'œuvre cinématographique.
Je crois que le jeu est de trouver sa propre méthode. Je pense qu'il y a autant de musique de film que de méthode. Je pense que une méthode doit être absolument brisée, absolument, si on veut faire quelque chose de bien. Mais pour moi, la musique de film, c'est très concret dans le sens où on nous donne un film, et puis donc il y a le cadre du film, il y a aussi des ordres du réalisateur ou de la production, donc il y a un cadre en fait défini. Donc on est là pour faire quelque part un travail, quelque part. Mais finalement, dans le film, tout est faux. C'est-à-dire que ce sont des acteurs qui jouent la comédie, il y a un décor autour, ils apprennent des dialogues et ils le redisent. Et la musique doit en fait coller la vérité dessus. Parce que la musique est un autre niveau de vérité. Et c'est ce qui fait que le film, en fait, va devenir la plus vraie. Et du coup, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être juste. C'est-à-dire faire oublier que c'est un film. Et pour détourner soit l'attention ou augmenter ou catalyser l'émotion qui va faire qu'on va vraiment y croire et que ça va marcher.
Alors, deux exemples, Philippe Cohen-Solan. Vous vous situez où, vous, par rapport à Ennio Morricone et Jean-Boulin Dunkel, encore ailleurs?
Je sais pas, ouais. C'est difficile. Ennio Morricone, je le considère pas comme un collègue, mais comme un maître. J'ai tellement aimé ses musiques et ce que dit Jean-Boulin Dunkel. Et c'est vrai, absolument, que la musique aussi doit exister par elle-même et pas que en illustration du film. C'est le piège. Et c'est le piège, pas seulement, je pense pas que c'est les compositeurs qui rentrent dans ce piège-là. C'est plus les réalisateurs qui, des fois, ont peur, en fait, de la musique, parce que c'est un truc qu'ils maîtrisent pas toujours. Il y a beaucoup de réalisateurs qui savent pas vraiment, et là, en fait, là, ils ont affaire à quelqu'un qui est un peu le maître à bord aussi de sa musique, c'est-à-dire il est un compositeur, c'est un auteur à part entière aussi. Donc, il est au service du film et du réalisateur, mais il a son langage propre, et qu'il faut s'y respecter. Et ça m'est arrivé aussi de travailler avec des réalisateurs qui avaient peur, en fait, de l'émotion dans une musique. C'est-à-dire, s'il y avait une scène émouvante, ils trouvaient redondant de mettre une musique qui était émouvante. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça, parce que pourquoi, quel est le problème de faire pleurer au cinéma? Enfin, j'adore, moi, pleurer au cinéma.
Moi aussi.
Ah oui, j'adore. Et donc, il faut pas être timide avec ses émotions, avec l'émotion qu'on veut transmettre dans un film. Mais après, bon, c'est le réalisateur qui est le patron. Moi, j'ai toujours aimé travailler sous la commande aussi. J'aime bien être maître à bord de ma musique. C'est pour ça que je fais des disques, des albums. Mais en fait, j'aime bien aussi qu'on me dise...
Être au service de...
Ouais, absolument. Ça me plaît. Après, il y a des gens pour qui on a plus de plaisir au service d'eux que d'autres. Et des films, des fois, voilà.
Bon. Mais... non, enfin, ce qui est important, évidemment, et là on y vient, c'est de faire votre musique. Et on va venir au disque solo, mais il faut évidemment évoquer l'aventure Gotham Project. Mais on va faire un petit détour qui nous amènera aussi vers 75-010 avec cet extrait d'entretien de Brian Eno au micro de Mishka Assayas, c'était en 2022.
Well, I think there is a...
J'ai l'impression qu'il y a une vraie raison de s'inquiéter dans cette histoire d'appropriation culturelle. L'important, c'est que les cultures dans lesquelles vous puisez vos idées soient créditées et leurs auteurs rémunérés. C'est de ça dont on devrait s'inquiéter. Qu'est-ce que c'est que la culture, si ce n'est de l'emprunt, de la fusion entre des idées qui se croisent? Si on décidait de n'utiliser aucune appropriation culturelle, mais qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je vais chanter?
La musique populaire blanche n'existerait pas.
Et même en se privant de toutes les influences africaines dans la musique populaire, ce qui, bien sûr, doit en représenter 60 ou 70%, même en mettant tout ce qui est venu d'Afrique de côté. Alors que faire de l'influence de la musique celtique, qui elle-même est issue du monde oriental par l'entremise des marchands vénitiens? Débarrassons-nous-en aussi. Et qu'est-ce qui nous reste? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir chanter? Et qu'est-ce qui va nous donner envie de chanter ce qui reste? La culture, c'est assurément l'exaltation de tout ce qui peut nous traverser. Et moi, une des choses qui me traverse, c'est que je suis à l'écoute des musiques des quatre coins du monde et que je rencontre des gens des quatre coins du monde. Et les belles idées de leur culture déteignent sur moi.
Alors évidemment, une des déclinaisons de ce que vient d'évoquer, là, Brian Eno donnera à 75-010, dont on va parler, Philippe Cohen-Solan, mais se trouve évidemment déjà dans Gotan Project, dont la naissance a lieu en 99, avec vos camarades Christophe Hetschmüller et le musicien argentin Eduardo Makarov. L'idée de départ, si je résume à grands traits, c'est justement d'amener le tango sur le dance floor électro.
Vous dire ça, je résume. Exactement. Non, mais c'est vraiment ça. Non, mais c'est vraiment ça. C'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait, moi qui ne suis pas argentin ni musicien de tango, en fait, j'adorais Astor Piazzolla depuis mes 18 ans quand j'ai découvert chez les parents de ma copine des disques de Piazzolla. J'ai même pas fait vraiment le lien et pourtant il y avait marqué sur le disque Histoire du tango, donc c'était quand même clair. Mais pour moi, c'était Piazzolla. Et j'ai adoré ça pendant 20 ans avant de rentrer dans cette musique. Mais l'idée, c'était effectivement d'amener cette humeur, ce mood qui est le tango, qui est vraiment spécifique, qui est un mélange de mélancolie, de vivacité, d'énergie, et de l'amener sur le dance floor, des dance floors, les DJ, tout ça. Parce qu'en fait, c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai passé pas mal de temps dans les dance floors, enfin, pas à danser, tout simplement, et j'ai adoré depuis la fin des années 80 jusqu'à, on va dire, les années 90, tous les morceaux étaient très positifs. C'était Do What You Feel. Je sais pas, tous les morceaux étaient. C'était vraiment.
Let's party.
C'était vraiment le.
L'hédonisme, quoi.
L'hédonisme, exactement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais on va pas passer toute notre vie à dire que des trucs hédonistes et positifs. Et ça, c'est pas que je veux mettre des messages négatifs, mais il y a un moment, on va arrêter de danser comme des sous extasie, extasiés, quoi.
Oui.
Il y a un moment, il va falloir amener un autre mood, et déjà, Massive Attack, d'une certaine façon, l'a fait. D'ailleurs, ils avaient un label qui s'appelait Mélancolique, bon, qui n'existe plus, mais qui était leur label. Et donc, la mélancolie pouvait... Eux, ils ont réussi aussi à amener la mélancolie sur le dance floor. Et ça m'a aussi inspiré et fait... Et je me suis dit, mais le tango, que toute personne connaît, en fait, vraiment, tout le monde a entendu du tango. On a entendu dans un bal ou Jacques Brel faire un tango, Léo Ferré, etc. Mais personne... Enfin, personne, à part les gens qui connaissent bien le tango, le connaissait vraiment. Et surtout à cette époque-là. Et d'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, un des copains qui faisait de la musique électronique, quand il me demandait ce que je faisais, je lui disais, je fais du tango en ce moment. Il me dit, comment ça, du tango? Mais c'est ringard, c'est un truc de vieux, le tango. Je lui dis, non, c'est super beau, le tango. Et d'ailleurs, le premier album s'appelle La Revanche del Tango, parce que c'était une revanche contre l'ignorance que les gens pouvaient avoir sur cette musique.
Les a priori.
Et voilà. Et donc, cette idée, effectivement, d'amener l'humeur et le mood du tango dans les pistes de danse, ça, c'était vraiment le truc de Gotan Project. C'était vraiment ça. D'ailleurs, je m'attendais pas du tout à ce que d'autres gens, d'ailleurs, je m'attendais à que personne aime Gotan Project, pour tout vous dire.
C'est raté.
Non, c'est vrai. Mais au début, je voulais faire que 500 exemplaires, parce que je me suis dit, et le type qui bossait avec moi dans mon label, il me disait, non, mais on en fait 1000. Je lui dis, t'es fou, on va mettre 2 ans à les vendre. Enfin, parce que je pensais que les gens qui aimaient le tango n'allaient pas aimer, parce qu'il y avait trop d'électronique dans la musique. Les gens de l'électro n'avaient pas aimé aussi, il y avait trop de tango. Et en fait, les deux ont aimé.
Ouais.
Du coup, je me suis trompé, mais avec plaisir.
Oui, du coup, c'est quand même succès mondial, des millions d'albums. Alors, si le groupe ne s'est pas officiellement séparé, il n'y a pas d'album en vœu, mais il y a eu la célébration des 20 ans, justement, de la Revancha del Tango, il n'y a pas si longtemps, avec un morceau qu'on ne connaissait pas. Et puis, quand même, il y a ce spectacle qui, après avoir été donné au Théâtre du Rond-Point, suit cette idée de Gotan Project. Il reprend au Théâtre Marigny à partir de 16 mai. C'est Tango et Tango, ça se passe dans une milonga à Buenos Aires et s'y joue et s'y rejoue l'histoire de l'Argentine. Un livret de Santiago Amigorena, une mise en scène de Marcial Di Fonzobo, une chorégraphie de Mathias Tripodi, beaucoup de très beaux interprètes sur le plateau. Le tout sur votre musique, on va quand même écouter la chanson titre Tango et Tango.
Como ciudad y me enseñó a cantar esas cosas que han de contar sobre el pasado y la verdad, pero más que verdad son solo versos. Me llaman tango, es que...
que hay tango y tango, tango que ríe, tango que llora, tango suave y tango duro, tango que sabe, tango que ignora. Corriendo desde Europa aprendí a extrañar esas cosas buenas de allá, esas cosas malas de acá, esas que nos hacen dudar si somos algo o si no somos nada.
Me llaman tango, es que hay tango y tango, tango sentido, tango perdido,
tango indecente, tango insolente, tango sufrido, tango inocente.
Tango à retrouver sur le disque ou sur la scène, et sur la scène du Théâtre Marigny à partir du 16 mai 2024. Mais il faut en venir à votre actualité toute personnelle, Philippe Cohen-Solal, pour dire que depuis 2007, vous proposez régulièrement des albums solo qui sont tous des projets originaux, souvent conceptuels. Oui. Le nouveau-né n'y échappe pas, il s'intitule 75010. Et oui, il s'agit bien d'un code postal, celui du 10e arrondissement de Paris, dans lequel vous habitez depuis 93.
Exactement.
Un disque dont l'idée avait commencé à germer, ai-je lu, avant la pandémie de la Covid-19, mais que celle-ci a d'une certaine façon confirmé. Alors, il y a un livre qui avait connu un grand regain d'intérêt pendant les confinements, c'était Voyage autour de ma chambre, de Xavier Demestre, qui était aussi peintre. Hein. Mais pour vous, à l'heure où le coût écologique aussi des voyages est devenu un sujet, il s'agit d'un voyage autour du monde, mais autour de chez vous, dans ouais. votre arrondissement, du 10e arrondissement. On va découvrir un premier extrait de cet album. On va écouter Elmas, mais avant, il faut que je vous demande qui est-ce qu'on va entendre et comment il est né ce morceau-là ?
Alors, ce morceau, il est né, c'est parti de la sarabande de Handel, et j'avais envie de faire quelque chose avec cette mélodie qui est incroyable et
vous la gardiez au chaud depuis longtemps ou...
L'idée, oui, ça fait un petit moment que j'avais, mais je savais pas comment le faire et c'est le des fois le hasard, les rencontres qui ont fait, et là c'est quand j'ai commencé à échafauder l'idée de faire 75-010, j'ai commencé à demander aux gens que je rencontrais dans le dixième. Donc, par exemple, en l'occurrence, là, c'était mon barbier turc, qui est rue du Faubourg-Saint-Denis. Et je lui demandais, mais est-ce que vous connaissez pas des chanteurs turcs ou des rappeurs? Voilà. Et puis voilà, c'est pendant plusieurs mois, il me disait, oui, non, enfin, comme ça. Puis un jour, il m'a dit, tiens, lui, derrière, lui, il faudrait lui parler, c'est un chanteur, tout ça, ou rappeur, je sais plus. Donc j'ai parlé avec lui, on s'est échangé nos Instagram, j'ai regardé ce qu'il a fait, et puis en fait ça m'a plu. Lui et son grand-père, ils ont un duo qui s'appelle Ouzaï, et donc ils rappent en turc complètement. Et là je me suis dit, ouais, mais ça peut être super intéressant, un peu bizarre, mais intéressant de les faire rapper ou chanter sur cette sarabande. Et donc, on a fait cet essai, ça m'a vachement plu. Et donc, voilà. Alors, c'est un peu improbable comme mélange, mais...
C'est le dixième.
C'est improbable comme le dixième arrondissement, exactement.
Et sur ce qu'il parle, sur les paroles, sur ce qu'il chante, est-ce qu'il y a des indications de votre part?
Non, là, je les ai vraiment laissés. Évidemment, ils m'ont dit de quoi aller parler. Elmas, ça veut dire le diamant. Et donc, c'est sur la la préciosité de la vie et la richesse de la vie. Mais je les ai laissés libres complètement. De toute façon, j'allais pas pouvoir vérifier vraiment tout ce qu'ils disaient. Donc, ils auraient pu vraiment chanter n'importe quoi.
Peut-être.
J'avais vraiment vu. Et voilà. Et ça a été une rencontre qui s'est fait comme ça chez un barbier turc.
Voilà. Une des premières histoires de 75-010. On écoute Elmas. Ekmek un, usta ocak başında. Hayal kur ve ona odaklan. Kim der no? Yıldızlar, karanlık kapalar ve kömürden. Elmas do, elmas do, elmas do. Annemin oluyuz, aşk meyvesiyiz. Ailenin göz bebeğiz, evin direğiz biz. Başarılı iş adamıyız veya mütevazı pazarcıyız. Ama hepimiz hayat sanatçısıyız. Hepimiz geleneğiz, biz tarihi yazarız. Ailenin demeliyiz, ilgili babasıyız. Ve aşk için feda ediyoruz. Biz kapıcıyız, tıpkı astronotuz. Ama hepimiz hayat yolcusuyuz. Hepimiz kaderiyle yön verdi. Ekmek un, usta ocak başında. Hayal kur ve ona odaklan. Kim der dur? Yıldızlar, karanlıkta parlar ve kömürden. Elmas doğar, elmas doğar, elmas doğar. Karanlıkta düştük, hiç yılmadık. Üşürdüm, bulmadım güneşin ışığını. Vücudun ısısını düşmana eyvallah. Yazdım ismini kenara. Keser biçer lidersem affetmem. Hayat bu, savaş varsa kimseyi affetmem. Söz verdim, kaderine yön verdim. Ekmek un, usta ocak başında. Hayal kur ve ona odaklan. Kim der dur? Yıldızlar, karanlıkta parlar ve kömürden. Elmas doğar, elmas doğar, elmas doğar. Elmas, extrait de ce nouvel album de Philippe Cohen-Solal, 75-010, avec trois, George Friedrich Händel et Uzay, le duo de rappeurs turcs qu'on vient d'entendre. À quel moment, on va écouter un autre, et j'espère encore un autre extrait de cet album, mais à quel moment vous êtes dit que l'idée que vous aviez pour ce disque, 75-010, était viable, en fait, Philippe Cohen-Solal?
Jusqu'il n'y a pas très longtemps, en fait. Disons que j'avais toujours un peu des doutes, savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Et tout simplement, je fais souvent les choses quasiment par intuition. Et des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont moins bonnes. Là, c'est vraiment, il y avait effectivement, comme vous disiez, le fait je voyais bien que le monde était autour de moi et qu'il n'y avait pas besoin d'aller en Afrique ou d'aller en Turquie pour enregistrer des musiciens ou en Afghanistan ou ailleurs. J'aime bien les albums. J'ai une sorte de théorie bizarre sur les villes et leurs vibrations sonores, en fait, sur leur son. Par exemple, quand j'ai fait Gotan Project, la première chose que je voulais, après avoir fait quelques morceaux, c'est les écouter, ces morceaux, en Argentine, à Buenos Aires, pour voir comment ça allait sonner. Parce que, par exemple, si on est un musicien de reggae, je pense qu'il faudrait bien...
Il faudrait aller à Kingston,
pour voir comment ça sonne, si ça sonne comme un truc de touriste ou pas. Et là, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé en Argentine, et j'ai ouvert les fenêtres de l'hôtel où j'étais, j'ai mis la musique, j'avais un speaker et tout ça, et j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai dit, c'est bon, ça le fait. Et Et en fait, par exemple, il y a des albums qui m'ont marqué, comme un album qui s'appelait Doc Rock de Malcolm McLaren en tout début 1980, je crois, où là, c'est vraiment comme une bande-son de New York. Et on ressent, en fait, en écoutant, on est transporté à New York avec cet album, ou morceau de Stevie Wonder, Living for the City. Au milieu, il y a un break, une sorte de pont instrumental dans lequel il y a du field recording, des sons de la rue et tout ça. Et moi, j'adore ce genre de choses. Et donc, c'est d'ailleurs ce que je voulais faire, même pour 75-010, je voulais beaucoup plus mettre des sons. Et en fait, à la fin, je me dis, c'est déjà, ça voyage tellement. Donc peut-être sera une version de luxe, peut-être, avec des field recording. Mais là, je voulais vraiment qu'on entende ce qu'est le 10e arrondissement avec toutes ces communautés. Il y a plus de 70 communautés dans le 10e arrondissement, ce qui est énorme. Donc, ils n'ont pas tous sur l'album, évidemment. Mais j'ai voulu, en fait, rencontrer, en fait, les artistes qui me paraissaient les plus intéressants que le hasard ou le hasard forcé parfois me faisait rencontrer, en fait.
Puis il y a des thématiques aussi qui sont importantes. 75-010, c'est l'album de la diversité. J'ai envie de faire entendre vite un autre exemple. J'ai choisi Homesick Melody, où on va entendre Sarah Maness, que je ne connaissais pas, mais qui a écrit les paroles de cette chanson qui sont importantes. Comment est-ce que vous avez travaillé avec elle? D'abord, comment est-ce que vous l'avez rencontrée, en fait?
Alors, je l'ai rencontrée avec James Thierry, parce que James est voisin, on se connaît depuis très longtemps, parce qu'il avait même dansé dans les premières vidéos de Gotham Project, il y a 20 ans, donc quand même, ouais. À plus de 20 ans même. Je parlais à James, il y a un endroit où on se retrouve de temps en temps, qui est un très bon café qui s'appelle 5 Pie, et tout ça, et on se retrouve là-bas, et je lui parle de mon projet. Et il travaillait à ce moment-là avec Sarah Maness sur un de ses spectacles. Et donc, il m'a dit, mais Sarah, elle chante. Donc voilà, et donc j'ai écouté, effectivement, j'adorais sa voix. Et donc, je lui ai proposé une musique que j'avais faite. Et elle a fait des paroles là-dessus. Au début, elle a fait des paroles en français, puis j'étais pas super fan. Donc, on a dit, non, alors faisons en anglais, parce que comme elle écrit très bien en anglais aussi. Et donc, ça s'est fait, cette chanson s'est fait comme ça. Donc, elle a fait les paroles, j'ai fait la musique, et puis on a enregistré dans mon studio. Ça s'est fait de façon assez simple, et c'est une chanteuse, danseuse, qui en ce moment d'ailleurs tourne avec le Cirque du Soleil dans un spectacle qui s'appelle Allegria. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Sarah Maness.
Avec cette mélodie du mal du pays, ce qui est évidemment très beau pour ce 75-010.
Fantasies awake. That time I heard please come back to me.
Encore un très bon morceau de cet album 75-010, Philippe Coensonal. Alors c'est toujours très partagé en recevant des musiciens. J'ai à la fois envie de vous poser des questions, mais enfin envie de partager avec nos auditrices et auditeurs des morceaux justement de ce nouvel album. Alors, on va peut-être encore essayer d'en glisser un, mais les histoires sont toujours différentes avec ce nouvel album. Je voudrais qu'on entende la chanson que vous avez faite avec la comédienne et chanteuse Judith Chemla, qu'on aime beaucoup dans cette émission, qu'on a eu la chance de recevoir. Alors, c'est pareil, les enfants vont dans la même école, vous ne connaissiez pas, et puis on vous fait vous rencontrer. Et puis elle a récemment publié, Judith Chemla, ce livre, Notre silence nous a laissés seuls.
Magnifique.
Il revient sur la question des violences conjugales, un combat qu'elle a porté très courageusement sur la place publique depuis maintenant de longs mois, en partant de son propre cas, mais en étant aussi maintenant porte-parole pour les autres. Et finalement, cette chanson, qu'on va quand même entendre, c'est un autre fruit de ce combat. C'est un déclic aussi pour cette chanson-là.
Complètement, oui. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à... Donc, c'est une amie commune qui m'a parlé de Judith, qui habitait dans la même rue que moi. Et donc, du coup... je connaissais évidemment son nom, je savais qui elle était, mais du coup j'ai regardé vraiment plus, et sur son Instagram elle postait des vidéos qui étaient très émouvantes et très dures sur certaines femmes qui ont perdu la garde de leur enfant avec des pères abusifs, incestueux et tout ça, que la justice en fait ne rendait pas justice en fait. Et donc ça, je me rappelle, c'est un soir, j'étais dans mon lit, je regardais tout ça et je me suis dit, voilà, je vais mal dormir ce soir parce que j'en ai regardé pas mal de vidéos comme ça. Et puis le matin, je me suis réveillé et j'ai fait cette chanson en fait. C'est le lendemain matin où je me suis levé et je suis allé au piano et j'ai composé la musique, j'ai écrit les paroles quasiment d'un trait. Sûrement ça avait dû pendant la nuit, ça avait dû être digéré pas d'une certaine façon, et j'ai écrit cette chanson parce que c'est important de parler de ça et que la musique pouvait parler de ça. Alors c'est vrai que comme ça, si on connaît pas l'histoire, ça peut paraître comme une chanson d'amour, mais c'est une chanson d'amour pour son enfant et pour le manque que ça peut procurer quand on en est privé en fait.
On écoute Dans la nuit.
Mon ange, ma vie a perdu.
peu ce morceau, mais c'est parce que vous faites trop de bons morceaux, Philippe Cohen-Solal. Il faut que je voudrais parler du concert Outsider qui va avoir lieu à Enghien-les-Bains le 27 avril. Et il y aura une expérience en réalité virtuelle qui sera proposée au Bain Numérique, excellent festival numérique. Ce sera au mois de juin. Là, c'est un projet sur Henry Darger, l'artiste brut américain. Magnifique album aussi. Vous faites trop de bonne musique, donc il faudra revenir pour parler encore et encore et rentrer plus à fond dans le travail. Mais j'avais vraiment envie de partager ce coup de cœur pour 75-010, votre nouvel album chez Ya Basta Records. Pardon à Judith Chemla d'avoir un peu chanté ce morceau qui nous accompagne encore. Le temps de vous remercier, Philippe Cohen-Solal, d'avoir été notre invité.
Merci aussi de m'avoir invité.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Après Kim Gordon, ce sont d'autres légendes du rock alternatif qui marquent l'année d'un nouvel album de Jesus and Mary Chain. Avec Glasgow Eyes, les frères Jim et William Reid célèbrent les 40 ans de leur formation. Ils publieront également une autobiographie, un documentaire et sont déjà sur les routes d'une tournée mondiale qui passera par l'Élysée-Montmartre à Paris le 13 avril. L'occasion de se rendre compte du chemin parcouru depuis Psycho Candy, relique noise pop adoré par les adeptes du shoegazing et autres obédiences underground, marquée par les disputes entre Jim et William, qui n'ont rien à envier aux frères Gallagher. L'histoire du groupe continue de s'écrire de façon nettement moins sulfureuse, avec Glasgow Eyes, dont on espère qu'il s'agit plus d'un jubilé d'une épitaphe. Les frères Reid assurent toutefois qu'ils n'ont rien perdu de leur art du rock'n'roll. Pour preuve, ce morceau, Jam Code, notre son du jour.
Breaking up and then falling down.
C'était J-A-M-C-O-D, on l'aura compris, de Jesus and Mary Chain, extrait de leur nouvel album. Ils seront en concert à l'Élysée-Montmartre à Paris le 13 avril.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, nous poursuivons notre immersion avec les lauréats 2024 de la Villa Kujoyama à Kyoto. Et ce soir, nous allons dans l'atelier de tissage d'Emma Akamato avec l'artiste brodeuse Aurélie Lanoiselet. Et puis nous irons à Osaka rencontrer la star mondiale du bambou sur la scène contemporaine Shinkunzai avec Nina Fradet.
Bonjour, je m'appelle Aurélie Lanoiselet, je suis créatrice d'art textile et ma spécialité c'est la broderie à la main. Et je suis en résidence à la Villa pour un mois puisque j'ai été lauréate du prix Bettencourt-Schoeller en 2009.
Et qu'est-ce que vous attendez de cette résidence ?
En fait, moi je suis venue pour déconstruire l'image stéréotypée que j'avais du Japon qui est intervenue plusieurs fois dans mon travail. Et j'avais envie de pouvoir témoigner d'une véritable émotion et de pouvoir la partager ensuite avec mes clients, que ce soit des architectes, des designers, des créateurs de mode.
Pouvez-vous nous donner un exemple de ces stéréotypes ?
Le dernier, en fait, c'était... J'ai réalisé une broderie qui s'appelait Sakura.
Et qui, cette saison.
Cette saison, c'était il y a juste un an, en fait, et qui est devenue un sac, en fait, pour la maison Delvaux. Et l'idée était, en fait, de se dire, voilà, en fait, je suis une Française qui parle du Japon sans jamais avoir bougé. Et j'ai envie de savoir réellement ce que c'est avant d'en parler, en fait, tout simplement.
Et qu'est-ce que vous retenez de ces déjà 15 jours passés à la Villa ? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ?
En fait, je crois que c'est en train de transformer ma façon de voir le monde. Tout simplement, ça paraît énorme en fait comme phrase, mais il y a une approche en fait sensible sur tout. La façon de vivre, les objets, les rencontres, l'humain, les déplacements, le rapport au corps et le rapport à la culture et toutes ces petites choses poétiques qui se promènent un petit peu partout dans la vie. Et oui, c'est un vrai coup de cœur.
Là, Adèle, on vient d'entrer dans un atelier de tissage et c'est en fait le premier rendez-vous d'une lauréate avec un artisan de Kyoto.
Voilà, on est exactement dans le cœur de l'activité de la Villa. Donc il y a Masako qui fait partie de l'équipe de la Villa qui accompagne Aurélie pour venir à la rencontre de cet atelier, de cet artisan.
Donc potentiellement, c'est ce genre de rendez-vous qui après crée des liens pérennes entre les artistes français et les artisans de Kyoto.
Voilà, alors ils viennent soit découvrir une technique, soit pouvoir l'apprendre et donc revenir voir comment ils peuvent utiliser aussi éventuellement leur machine ou juste développer une collaboration dans le futur.
Et c'est la Villa qui fournit ce réseau-là, en tout cas qui aide les résidents à rencontrer, justement.
Oui, alors en fait, il y a plein de manières. Il y a les résidents eux-mêmes, des fois, qui arrivent avec des contacts qu'ils ont identifiés, voire avec lesquels ils ont déjà noué un lien. Il y a également le réseau de la Villa. Et puis, nous, on fait des recherches spécifiques en fonction des projets de lauréats. On va rechercher des personnes qui correspondent à leur projet.
Aurélie, alors là, on vient de nous montrer plusieurs échantillons. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'on a sous les yeux ?
Alors là, on est face à un tissage nishin-nishin. Et c'est ce que nous, on appellerait du brocart. Nishin-nishin. J'ai toujours du mal. Pardon. Et en fait, c'est tissé sur un métier jacquard. Et la spécificité, en fait, pour moi, c'est de voir comment ils utilisent le fil d'or, qui en réalité, en fait, est posé sur du papier washi avec une couche de laque où on applique la feuille d'or, qui est ensuite une machine qui va venir découper des fines bandes et qui va passer à l'intérieur. Ce que nous, on utiliserait directement avec du fil qui est mécanisé.
Et en quoi ce qu'on est en train de voir là vous intéresse, vous, particulièrement par rapport à la recherche que vous êtes venu faire à la Villa ?
La Villa Kujoyama, c'est vraiment une chance, en fait, parce que ça nous permet de découvrir un petit peu plus loin que ce vers quoi on tendrait naturellement. Moi, je viens de la broderie et avoir la chance de rencontrer des tisserands qui, en plus, vont nous expliquer et prendre le temps de nous recevoir pour nous montrer, en fait, ça donne forcément envie d'aller plus loin que ce qu'on imagine en termes de savoir-faire. On ne sait jamais quand on pousse la porte d'un atelier ce qu'on va découvrir réellement, même si en amont, grâce à la Villa, on peut avoir la documentation, on sait qui on rencontre, mais il y a toujours des surprises. Osaka, Amagasaki, Ashiya, Sannomiya.
ホームサブから離れてください。ホームサブから離れてください。マスク。 Bonjour, je m'appelle Nina Fradé, je suis artisane, designer, je travaille le bois et le bambou également.
Et vous êtes lauréate de la Villa Kujoyama 2024, avec quel projet vous êtes venue ici à Kyoto ?
Alors je suis venue avec le projet de poursuivre cette rencontre entre le travail du bois et le travail du bambou, donc sur un aspect tout d'abord de sauvegarde de ces savoir-faire, donc un savoir-faire purement japonais et un savoir-faire français, tout en essayant d'apporter un nouveau regard là-dessus, en travaillant des œuvres plus monumentales et qui sont sorties de leur fonction, donc pour faire des pièces d'installation dans d'autres contextes, dans d'autres domaines artistiques.
Nina, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on vient d'arriver là ?
On vient d'arriver dans l'atelier de Tanabe Chikunzai, qui est un artiste contemporain, un des plus connus mondialement. Il fait des installations en bambou monumentales un peu partout dans le monde. Donc on vient d'arriver dans son atelier école en même temps, parce que c'est ici qu'il forme ses disciples.
Et vous allez travailler quelques jours avec lui ?
Oui, je vais travailler toute la semaine prochaine avec lui sur une installation qu'il fait dans un temple à Osaka, pour voir justement comment ça se passe pour installer ces énormes volumes de bambou tressés.
Donc je m'appelle Chikunsai Tanabe et ma famille travaille le bambou depuis 123 ans dans la ville de Sakai, près de Osaka. Donc en s'inspirant de la tradition et des objets déjà existants et des pratiques traditionnelles, lui, son objectif, c'est de produire de nouvelles œuvres. Une œuvre, un type d'œuvre caractérise beaucoup ma pratique, c'est ce type d'installation monumentale dans l'espace. Donc l'œuvre que vous pouvez voir ici est composée de 10 000 tiges de bambou et elles sont uniquement tressées. Je n'utilise pas d'autres matériaux pour les assembler. Donc dans la boutique Gucci à Ginza, il y a une installation actuellement à Tokyo de 13 mètres de haut. Donc, une fois que l'installation est terminée, il récupère tous les bonbons qu'il collecte et qu'ensuite il fait voyager à travers différents pays pour d'autres installations, donc par exemple de la Turquie vers les États-Unis et ensuite vers d'autres lieux. Et cela fait 12 ans. Okay. Ça fait 12 ans qu'il utilise les mêmes matériaux.
Je vous vois réagir, Nina, devant cette œuvre, vous la connaissez ?
Oui, c'est une œuvre, enfin plusieurs œuvres, un ensemble d'œuvres que j'ai suivies. En fait, il a collaboré avec des scientifiques américains pour travailler des formes à partir d'algorithmes mathématiques.
Et par exemple, ces œuvres-là, elles sont exposées où ?
Donc, le mois prochain, j'ai une exposition prévue à Taïwan et cet été au musée des arts asiatiques de Nice.
J'ai prévu d'exposer 10 œuvres à Nice cet été, donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à passer.
Là, on rentre dans la partie plus atelier. On voit quelqu'un qui travaille d'ailleurs, juste à côté. Qu'est-ce qu'il fait par exemple là, le jeune homme ?
Alors là, il est en train de travailler l'épaisseur du bambou. Donc il travaille sur un petit plot en bois avec ce qu'on appelle un tranchet. Ça ressemble un peu à un couteau avec une lame un peu aiguisée. Et il travaille l'épaisseur en fait en affinant le bambou au fur et à mesure. Donc ça fait des petits copeaux de bambou qui s'en vont.
Et une pièce comme ça là qu'on a devant nous, c'est une pièce qui... comment on peut la décrire ?
Alors, c'est une pièce qui fait environ 1 mètre cube, on va dire. C'est une pièce totalement organique, en courbe, qui est un peu creusée au milieu, donc on peut regarder à travers, ça fait une sorte de rond. On peut apercevoir quand même un petit peu de lumière, c'est la particularité du tressage, il y aura toujours un petit jour entre les bambous. Et donc ça crée des ombres qui sont assez fantastiques.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, suite de la semaine japonaise avec la Villa Kujoyama, la LAC sera à l'honneur avec Nicolas Pinon et nous essaierons de comprendre un peu mieux le concept japonais de Wabi Sabi avec le photographe Alain Villaume.
Merci Marie et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinot, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Ruberti.